Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Pour qui a eu la chance d'avoir visité le Yellowstone, d'avoir vu le Grand Teton sous la neige, les espaces fabuleux, des bisons sur la route et un ours mangeant des érelles à l'orée d'une forêt, rencontrer un ancien ranger du Montana est vraiment un plaisir. Et quand, par chance, cet ancien ranger est un écrivain, ce plaisir est décuplé. Mais bien sûr, l'intérêt de ce roman tout imprégné de nature et d'espace ne s'arrête pas là. Car l'histoire émouvante, pudique, qui nous encourage à retrousser les manches pour continuer le chantier, nous donne une belle leçon de vie. Il s'agit de La vie en chantier, édité chez Gallmeister, et je suis ravie d'accueillir son auteur, Pete Fromm, accompagné de Thibaut Gendreau, qui sera son interprète. Pete Fromm, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Thibaut Gendreau et merci de venir nous aider parce que là, pour le coup, vous allez être notre interprète, interpréter les paroles de Pete. Tout commence par une belle description, l'histoire d'amour d'un jeune couple, l'amour, un amour fait de gaieté, un amour fait d'humour, de complicité. Il y a peu d'argent, mais beaucoup de projets de goût partagés. Alors, vous vouliez décrire un couple visiblement fait pour durer.
Yes, I really wanted to set up a couple.
Donc je voulais vraiment mettre en scène un couple qui se retrouverait dans leur amour et qui serait prêt à affronter n'importe quoi ensemble. Le Montana est une région absolument magnifique, fabuleuse, mais c'est aussi un endroit très difficile pour y vivre. Et je voulais justement que ce soit un couple qui soit prêt à affronter n'importe quoi pour continuer à y vivre.
Alors justement, je parlais de goût partagé, en particulier celui de la nature, et plus précisément d'un lieu connu d'eux seuls, isolé entre montagne et lac. Alors, ce lieu est-il un symbole ?
Yes, for them, it very much so. It's
pour eux, oui, c'est une sorte de symbole. Ce jeune couple travaille vraiment dur. Ils s'occupent de la reconstruction de cette ancienne maison dont ils ont fait l'acquisition. Ils sont jeunes, il y a une espèce de vision romantique dans ce couple qui affronte quelque chose, un projet vraiment incommensurable et très compliqué. Et ils sont prêts à l'affronter, certainement parce qu'ils sont jeunes, mais ils travaillent très très dur, ils ont les pieds dans la boue, dans le plâtre, dans la poussière, et de temps en temps ils ont besoin d'aller dans ce lieu secret.
Se régénérer.
Exactement, se régénérer, et ce lieu qui leur permet de se débarrasser de leurs vêtements, de plonger dans la rivière, et de refaire connaissance avec ce lieu, de se rappeler pourquoi ils font tout ça.
Alors, cet amour de la nature, on le retrouve chez Tass, le jeune homme, menuisier ébéniste, son travail, il est être menuisier ébéniste, et à travers lui, il parle du bois d'une manière très sensuelle. Et ça, c'est assez extraordinaire. Alors, est-ce que c'est son expérience personnelle, j'ajoute.
Yes.
Donc oui, tout à fait. L'un des plus anciens conseils qu'on nous donne en tant qu'écrivain, c'est de toujours écrire sur quelque chose qu'on connaît. J'ai moi-même travaillé en tant que charpentier, j'ai rénové beaucoup de maisons. Je rénove aussi la maison dans laquelle j'habite avec ma femme. Et globalement, tout ce dont Taz fait l'expérience et connaît dans ce métier-là, tout ce qu'il fait, je l'ai fait avant lui. C'est pour ça qu'il s'y connaît autant. Et le travail de charpentier lui permet en fait de focaliser son attention sur une tâche manuelle. Comme ça, il peut mettre de côté tous les ennuis, tous les problèmes et se concentrer sur cette tâche. Donc pour lui, c'est comme un refuge.
Oui. Alors, pour parler encore un peu de la nature, la nature est toujours présente dans l'ouvrage à travers les feux de forêt. Et si dévastateur l'été, et quand on va dans le Montana, on est étonné de la quantité de forêts brûlées. On perçoit dans le village l'odeur du bois brûlé en permanence. Alors, est-ce qu'il y a une inquiétude latente, un rappel fréquent? Pourquoi il a signalé ça?
Because it's what we live with in Montana.
Je parle beaucoup des feux de forêt parce que ça rend la réalité de ce qu'on vit au jour le jour dans le Montana. Les feux de forêt sont de plus en plus fréquents. La saison des feux de forêt commence de plus en plus tôt, se termine de plus en plus tard. Elle est de plus en plus longue à cause du réchauffement climatique et elle devient de plus en plus catastrophique. Certains petits villages ont dû être évacués à cause des feux de forêt. Et quand on est pendant la saison des feux de forêt dans le Montana, il y a de la fumée absolument partout, tellement que parfois on ne peut plus voir la couleur du ciel. Pour l'histoire, ça, évidemment, ça donne un sens d'un danger qui est omniprésent et toujours possible.
C'est anxiogène, oui.
Mais ça participe aussi du réalisme que je voulais mettre dans le livre, à savoir que pour des gens qui vivent dans le Montana, c'est tout à fait normal de sentir cette fumée omniprésente.
D'accord. Alors, il me semble que le thème du deuil n'est pas fréquemment abordé en littérature quand cela touche un homme jeune. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée, justement, de la solitude brutale de ce jeune homme, Taz?
Actually, the whole idea for the novel came from.
En fait, tout a commencé avec une nouvelle que j'ai lue dans un magazine, qui raconte l'histoire d'un couple et la jeune femme a une crise et rentre à l'hôpital et le papa va revenir à la maison avec seulement son bébé, la mère est morte en couche. C'était une fin absolument parfaite pour cette nouvelle, mais je me suis dit qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire, donc c'était le début parfait pour mon roman. Donc mon roman raconte l'histoire de ce jeune homme qui revient chez lui et se retrouve tout seul avec cet enfant. Donc je me suis mis à écrire la suite de cette nouvelle le jour d'après ma lecture.
D'accord. Et alors, évidemment, donc, c'est un cataclysme. Et pour Taz, je ne sais pas comment on prononce, on dit Taz, Taz.
Taz,
oui. Outre la douleur, il y a l'abandon des projets communs, la solitude, et puis il y a des impératifs, des urgences. Le bébé, le travail, l'argent, la maison. Est-ce que, et dans le fond, tout cela, on sait que beaucoup de femmes connaissent cette solitude avec un enfant.
Ce dont vous parlez, c'est quelque chose qui m'a conduit aussi à l'écriture et qui m'a emballé dans mon écriture. J'aime bien prendre ce qu'on considère comme acquis, certains stéréotypes, et simplement les retourner. On a l'habitude de lire un roman, ça nous aurait moins étonné de lire un roman où une jeune femme doit élever son enfant toute seule. Donc j'ai trouvé intéressant de remplacer cette jeune femme par un jeune homme. Et en fait, beaucoup de gens auraient pu, à sa place, se replier sur eux-mêmes. Mais lui, il n'a pas le choix. Il doit s'ouvrir, il doit continuer, trouver la force d'élever cet enfant. Il est forcé à être dans l'action et à agir toujours plus. Et il y a tellement de choses qu'il ne maîtrise pas, tellement de choses dont il n'a pas la moindre idée de comment les faire, dont il n'a pas la moindre idée de leur exécution. Et il y a tellement de choses qu'il va apprendre simplement en les faisant, une chose après l'autre.
Alors, après le décès de Marnie, cette jeune femme, les chapitres sont datés. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut montrer ?
J'ai voulu dater les chapitres à partir de là, tout simplement parce que déjà dans la vie d'un enfant, on a tendance à dater beaucoup. Il y a des étapes obligatoires, il y a la visite médicale des 2 semaines, il y a la visite médicale du 1er mois, il y a le moment où elle va commencer à se tenir assise, puis se tenir debout, puis commencer à marcher. Il y a plein d'événements comme ça qui vont rythmer la vie de l'enfant et on a tendance à voir ça comme un compte à rebours. Mais il y a aussi quelque chose de plus grand par rapport à mon histoire, c'est que le zéro correspond à la fois à la naissance de, de Mitch, mais aussi au décès de Marnie. Et en fait, le décompte qui va se mettre en place à partir de cette date correspond à la fois à la croissance de Mitch et comment elle se débrouille avec la vie, comment elle progresse, mais aussi, quelque part, à la progression de Taz par rapport à Mitch et par rapport à Marnie et à son deuil. Donc il va y avoir toutes les étapes comme ça jusqu'au jour 365, qui correspond à la fois à l'anniversaire de la naissance de Mitch, mais aussi l'anniversaire du décès de Marnie.
Oui. Alors, plutôt que de décrire la psychologie des personnages, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous préférez énoncer des actes, des faits.
I love the French readers.
J'aime tellement les lecteurs français. C'est incroyable, en fait, de voir à quel point les lecteurs français font une lecture précise de mes livres et réalisent tout le travail que je mets en place pour arriver à faire ce que vous avez décrit. Je trouve que c'est réducteur de simplement décrire la psychologie des personnages, de décrire comment ils se comportent et ce dont ils font l'expérience psychologique. Je préfère à cela décrire ce qu'ils font, écrire des scènes de dialogue qui vont montrer leur réaction par rapport à une scène donnée. C'est comme si ensuite, à la lecture de ça, on faisait l'expérience nous-mêmes de ce dont ils font l'expérience. Et donc on se met à ressentir ce qu'ils ressentent. Et c'est quelque chose que j'adore quand je lis un livre. C'est non pas qu'on me dise ce que je dois ressentir, mais simplement qu'on me fasse ressentir les choses comme si moi-même, je vivais leur vie. Et c'est incroyable parce que je travaille très très dur à créer cette chose et les lecteurs français arrivent à la capter. Et ça, c'est incroyable.
Alors, justement, je trouve aussi très intéressant de la description, finalement, d'un comportement très masculin face au deuil, face à tous ces problèmes qui arrivent. C'est un peu, je ne vais pas généraliser, mais par exemple, cette extrême pudeur. Il y a beaucoup de réactions que je trouve très masculines et c'est intéressant de voir de la part d'une femme en tout cas de voir ce comportement-là.
The previous two novels to come out.
Dans mes précédents romans, j'écrivais du point de vue, dans les deux précédents romans que j'ai écrits, j'écrivais du point de vue d'une femme. Et beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir comment j'arrivais à rendre un point de vue féminin de façon aussi réaliste. Et bizarrement, quand j'ai écrit un roman du point de vue d'un homme, on ne m'a pas posé la question. Je pense que j'essaie d'écrire tout simplement du point de vue d'un individu qui ressent des choses, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Et ça correspond plus en fait à sa personnalité qui au fur et à mesure de l'écriture s'est révélée être un peu taiseuse, très très humble et aussi un peu timide. En fait au départ je voulais écrire le roman d'un homme qui élève son enfant tout seul, mais il s'est avéré très très vite, très rapidement que c'était pas du tout l'histoire d'un homme qui élève son enfant tout seul, mais plus l'histoire d'un effort de groupe, puisque cet homme n'est pas seul, il y a Rudy, son meilleur ami, il y a sa belle-mère au bout d'un moment qui va arriver, et en fait face à tous ces gens qui se dresse avec lui, lui se retrouve un peu dans la position de la toile de fond. Il va se mettre naturellement en arrière. Et au fur et à mesure de mon écriture, je me suis rendu compte que Taz se présentait comme ça, se présentait comme quelqu'un qui, dans un effort de groupe, va se mettre un petit peu en arrière.
gasoline in Canada state plates. And they ask me how far in the Memphis girl, where's the nearest beer? They don't even know that there's a town around here. Someday I'm finally gonna let go. I know there's a better way. I wanna know what's over that rainbow. I'm gonna get out of here someday. Now my brother went to college 'cause he plays football. Chevy, she's low and sleek and black. Someday I'll put her on an interstate and never look back. Someday I'm finally gonna let go. I know there's a better way. I wanna know what's over.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Oui, alors justement, en fait, ce personnage se révèle dans le fond solitaire. Je n'ai pas noté la question. Okay. Solitaire, et on comprend que, en fait, sa compagne, Marnie, son épouse, était l'élément peut-être plus fort, plus ouvert, tourné vers les autres. Mais il y a justement un développement, un progrès, une progression.
This is great. It's like you were watching me write.
C'est absolument incroyable parce que j'ai l'impression que vous me regardez en train d'écrire le roman.
Oui, je surveille.
She's watching.
Before Taz met Marnie.
Avant de rencontrer Marnie, Taz était quelqu'un de très solitaire, un peu un homme des bois. Et quand il l'a rencontré, dans son groupe d'amis, ça a été le premier à se marier, ça a été le premier à avoir un enfant. Et Rudy se moque beaucoup de lui et fait beaucoup de blagues sur le fait qu'il était avant un homme des bois. Maintenant, c'est le premier à être un homme de famille, ce qui est très très drôle. Et puis, il avait cette espèce de projet secret avec Marnie de créer une cellule indépendante, coupée du reste du monde, une espèce de cellule individuelle et qui puisse quasiment autarcique. Et maintenant que Marnie est morte, il voit ce rêve s'effondrer, ce projet s'est cassé, et il se retrouve pris entre ce rêve qu'il avait d'indépendance avec elle et leur enfant, et la vraie vie avec ses amis qui se révèle à lui. Donc il se retrouve dans la position de devoir faire ce que Marnie faisait avant pour lui et pour le couple.
Il est obligé de se transformer. Alors justement, il y a une très belle description d'une amitié masculine. Là vraiment, je trouve que c'est très, très beau, très émouvant. Rudy est un personnage formidable. Ah, oui, je l'aime beaucoup.
She likes him a lot.
Yeah, in the first draft of the novel.
Dans la première version du roman, Je savais que j'écrivais le roman dans une mauvaise direction. C'était assez pesant, assez lourd, assez sombre. Et j'ai laissé le roman de côté et j'y suis revenu un an plus tard. Et je voulais trouver un moyen d'ouvrir le roman, de sortir Taz de ce deuil et d'apporter de l'humour, d'apporter de la légèreté. Et je me suis dit que le personnage de Rudy était tout indiqué pour apporter cet humour. Rudy ressemble à beaucoup de gens qui habitent dans le monde qui travaille juste assez pour pouvoir se payer des bières, aller à la chasse, aller pêcher. Et en fait, Rudy est quelqu'un de très disponible pour Taz. Et c'est lui qui va le tirer vers la société,
le booster,
qui va le booster et le ramener à la vie. En fait, je connais énormément de personnes qui ressemblent beaucoup à Rudy. Et pas mal de personnes, quand le roman est sorti, ont commencé à gonfler la poitrine et sont revenues vers moi en disant « Waouh,
c'est moi,
c'est super, tu m'as mis dans le livre !» Et je lui ai dit « Non, 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 je crois pas, non. » Rudy a cette habilité et cette capacité, tout comme beaucoup de gens que je connais, à pouvoir retourner une situation triste en une situation gay, à pouvoir se moquer d'à peu près tout et de rendre tout à peu près drôle. Et pendant que j'écrivais, Rudy m'a fait rire un bon paquet de fois.
Oui, oui, oui. Il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est la place des parents. Parce que j'ai remarqué que les familles, les parents, même quand ils prennent leur retraite, je ne l'ai pas mis là dans mes notes, mais s'en vont loin de leurs enfants. C'est le cas là, les parents de Taz partent en Nouvelle-Zélande, en New Zealand. Lorraine, la mère de Marnie, est prête à venir, elle. Mais cette place est très intéressante. Comment ils voient les familles, la parentèle, justement?
From the very first paragraph of writing.
Pendant l'écriture, dès le premier paragraphe, on commence à prendre des décisions. J'avais l'histoire de cet homme qui entre dans la maison avec son bébé. Et tout de suite, j'ai commencé à me demander quel genre de maison. Et ça m'a donné en fait la carrière de Taz en tant que charpentier, parce que seul un charpentier achèterait une maison aussi pourrie pour la rénover, donc il faut qu'il s'y connaisse. Je voulais mettre en scène ce personnage seul, donc il fallait pas qu'il ait de parents. Alors j'ai pas eu envie de les tuer. Du coup, je les ai fait partir au loin, tout simplement parce qu'il y a cette figure paternelle. Le papa de Taz est un charpentier lui-même qui a construit ses cabanes en bois, des cabanes en bois, en rondins de bois. Et c'est lui qui a tout appris du métier de charpentier à Taz. Donc, ça fait encore sens que Taz soit charpentier. On l'explique par la figure du père. Et en fait, ce père est une figure aussi politiquement engagée à gauche. Et il n'a absolument pas supporté la réélection de George Bush. Et donc, quand George Bush a été réélu, il a décidé de quitter les États-Unis alors que Taz était au lycée. Ce qui explique que Taz soit devenu si ami avec Rudy, tout simplement parce qu'il a commencé à vivre avec lui. Ils sont devenus colocataires. Et plus tard, j'ai vu la figure du père grandir et prendre un petit peu plus d'importance que ce que j'avais prévu de lui donner au départ de l'écriture. Tout simplement parce qu'il représente une sorte de modèle de ratage monumental en tant que père. Oui. Puisqu'il n'a jamais été capable de mettre ses besoins, ses passions, ses choix de côté pour favoriser la croissance et
de son fils.
Voilà, oui. De son fils. Oui. Chose que Taz va réussir à faire, à se mettre lui-même de côté, mettre ses besoins de côté et son deuil de côté pour pouvoir élever sa petite fille.
Alors, un de nos présidents de la République disait « Il faut laisser du temps au temps ». Et alors, c'est ce que l'on voit dans ce roman, à savoir, et d'ailleurs c'est concrétisé par les chapitres qui ont des dates, et ce que l'on voit, c'est que pour envisager une vie amoureuse, pour envisager une douleur moins grande, eh bien, il faut du temps. Donc, c'est un peu l'éloge de la lenteur aussi.
No, I wouldn't say it's the elegy of time, but that's a
l'idée que le temps peut aider à guérir les blessures est clairement dans le livre, mais je ne peux pas parler non plus d'une élégie, d'un éloge de la lenteur et du temps, tout simplement parce que le temps ne peut pas guérir tout. Et au début, quand j'ai écrit le roman, j'étais vraiment pas sûr que Taz allait arriver à surmonter toutes ces épreuves. J'avais de l'espoir pour lui, mais je n'étais absolument sûr de rien du tout. Et Taz a besoin de faire un apprentissage par lui-même. Il a besoin déjà de faire la connaissance de sa petite fille. Il a besoin de se laisser aller à tous les conseils et à toutes les espèces de déflagrations d'énergie et de vie que lui adressent ses amis, que lui adresse Rudy, que lui adresse sa belle-mère, que lui adresse aussi Elmo, la jeune gardienne de son enfant. Mais Taz est aussi toujours attaché au passé de manière très très forte. Et même si Marnie est partie, elle n'a pas déserté sa vie. Elle est toujours là et il se raccroche à elle, il continue de lui parler, elle est toujours présente dans sa vie. Et c'est quelque chose chez lui qui, malgré le temps, a tendance à le retenir en arrière.
Anyway. We'll do it, our version is a little funkier. While I was out riding the graveyard till midnight till dawn, the moon was as bright as a reading light for a letter from an old friend back home. And he asked me why he write for money, why he wrote short pain. You ain't getting away, losing your shame. You must have gone crazy out there. Said last night I would run on to Jenny. She's married, she has a good life. You sure miss the track when you never come back. She's a perfect professional's wife. She's married to a so-called accountant. She asked me, why do you ride for your money? Why do you rope short pay? You ain't getting no end, losing your shame. You must have gone crazy out there. But I guess they've never seen the northern lights. They never seen a hawk on the wing. They never seen the spring. It's a great divide. They never heard camp cookies sing. Called it high lonesome when he sang. My old letter, tore off the stamp for Black Jim. When Dougie rode up to relieve me, he looked at my letter, then he grinned. And he said, now why do they write for their money? Tell me why do they rope for short pay? Traded in buffalo chips for microchips, Bob. Hell, losing their shame. They all must be crazy out there. Well, they never seen the northern lights. They never seen a hawk on the wing. They never
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Alors justement, Marnie, tout au cours du livre, Marnie lui parle, et il lui parle, il l'écoute, et on se demande comment il va pouvoir continuer à vivre, ou même vivre une nouvelle vie amoureuse. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de délicatesse dans sa relation avec Elmo, plutôt Elmo dans sa relation avec Taz, où tout se fait lentement, il y a des reculs, il y a parfois des malentendus même, mais là c'est très subtil, on sent vraiment que c'est compliqué pour lui. Aimer, par exemple, Elmo, s'autoriser à aimer Elmo, c'est trahir Marnie.
That was probably one of the toughest parts of writing the whole book.
Ça a été l'une des choses les plus difficiles à écrire. Elmo, quand elle entre dans l'histoire au début, elle n'a pas du tout envie de prendre ce travail. Elle n'a pas envie d'arriver dans cette maison avec qui est remplie de deuil, avec cet homme brisé. Elle n'a pas du tout envie de ça, elle est très hésitante, et Taz est encore plus hésitant, puisque alors qu'elle entre dans sa vie, il ne va pas arrêter de la fuir. Il va passer encore plus de temps dans son atelier, où il travaille le bois. Il va passer du temps à travailler beaucoup plus que prévu. Il est tout le temps en train de l'éviter et d'éviter toutes les choses qui ne sont pas son travail. Il se coupe en quelque sorte de tout le monde. Tout simplement pour rester aussi un peu plus avec Marnie dans sa tête. Et Elmo, c'est quelqu'un qui subtilement va avoir des doutes, mais va être constamment en train de le pousser en avant, constamment lui rappeler qu'il ne s'agit plus de lui ou de Marnie maintenant, mais il s'agit de cette petite fille. Et par exemple, pour son anniversaire, elle va le pousser à célébrer l'anniversaire de cette petite fille.
Qui est l'anniversaire de la mort aussi de Marnie.
Qui est l'anniversaire de la mort de Marnie. Ouais. Elle va le pousser et lui faire comprendre qu'il faut quand même fêter cet anniversaire. C'est peut-être l'anniversaire d'un deuil, mais c'est surtout l'anniversaire d'une naissance. Et elle va être constamment en train de le pousser à faire attention à ce qui se passe autour de lui, à ne pas se couper du monde, à rester connecté. Et c'est une personne pleine de ressources et remplie d'une immense force.
Oui.
Et ce que vous avez dit par rapport au fait de faire un pas en avant et faire un pas en arrière et ce constant mouvement, Taz en fait l'expérience alors qu'Elmo rentre dans sa vie, mais surtout rentre dans la vie de sa petite fille et que sa petite fille fait ses immenses progrès. Dans la vie de Elmo, c'est Elmo qui, en quelque sorte, vit ce que Marnie aurait dû voir. Donc à chaque fois, par exemple, quand Midge se tient debout sur les genoux de Elmo, Taz est heureux, profondément heureux, de voir ce progrès que fait sa fille sur les genoux de Elmo. Et tout de suite après, il y a ce pas en arrière où il se dit ça ne devrait pas être elle, ça devrait être Marnie. Ouais. Et il est tout le temps en train de faire un pas en avant comme ça, et ensuite un pas en arrière en se disant ça ne devrait pas être Elmo, mais ça devrait être Marnie qui assiste à ça.
Ouais. Alors, en finale, c'est autour de l'amour d'un enfant que va se reconstruire toute une famille. Il y a Laurent, il y a Rudy, il y a Elmo, il y a évidemment Taz. C'est une famille hétéroclite, mais c'est une famille qui se construit.
It's the French again. This is exactly what I was trying to do.
Ça, c'est encore un coup des lecteurs français. Vous avez compris complètement ce que j'ai essayé d'écrire dans ce livre. Au départ, ce n'était pas clair pour moi lors du processus d'écriture, mais ça l'est devenu au bout d'un moment. J'écrivais sur cette histoire de reconstruction autour de l'amour d'un enfant. Midge est la personne qui va forcer tout le monde à aller de l'avant dans ce deuil. Rudy arrive dans la vie de Taz en tant que personne qui va l'aider, l'assister, lui amener de la joie, le pousser en avant. Elmo va arriver aussi dans sa vie et va être cette force constante qui va le pousser encore plus fort, beaucoup plus vite que ce qu'il voudrait en avant. Il y a aussi ce fabuleux personnage de Lorraine qui arrive dans la vie et qui elle aussi souffre du même deuil puisqu'elle a perdu sa fille. C'est la belle-mère de Taz et elle va avoir ce rôle délicat de le pousser en avant, mais de ne jamais prendre sa place dans l'éducation de Midge. Et Midge est ce petit être qui finalement va résoudre la vie de tout le monde, va pousser la vie de tout le monde en avant, alors qu'elle ne demeure qu'un petit enfant.
Tout à fait. Alors pour terminer, ce que vous nous montrez à nous lecteurs, c'est l'importance justement des amis, de la famille. C'est le rappel de la nécessité d'une solidarité humaine. Vous faites confiance en l'humanité? C'est vaste problème, vaste question.
For most people, on a person-to-person basis,
sur la base d'une relation personne à personne, dans le Montana, je fais confiance à la plupart des gens. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans l'écriture de ce roman. Au début, je voulais écrire le roman d'un homme seul qui élève son enfant. Et tout de suite, ça m'a paru complètement évident que la famille et les amis allaient s'agglutiner autour de lui et l'aider. Donc, c'était quasiment impossible d'écrire l'histoire d'un homme seul. Et je pense que cette histoire est plausible dans le Montana. Les gens feraient ça. Tout de suite, il y aurait une sorte de réseau de solidarité qui verrait le jour. D'un point de vue plus large et peut-être un petit peu plus politique, je serais un petit peu plus pessimiste. Je pense que les gens ont cette tendance naturelle à se préoccuper d'abord d'eux-mêmes. Et tout ça est incarné par notre triste président qui se nourrit d'avarice et ne pense qu'à son image et qu'à lui-même et favorise ce genre de choses. Donc je serais un petit peu plus pessimiste d'un point de vue général.
Alors, pour terminer par une note d'humour, alors voilà, Pete Fromm, vous avez écrit, vous avez noté une citation de Joe Miller. Lorsque le futur marié lève le voile sur ses tempes délicates, je me dis qu'on devrait les prévenir. Un avenir fait d'enterrements, d'emprunts, automobiles, d'impôts et d'enfants malades la nuit, c'est un boulot que vous ne saurez pas faire. Le bras nu enfoncé jusqu'au cou dans l'évier bouché parmi les pelures d'aubergines brûlées à la dérive absurde. C'est ça la famille? Aussi, also.
I love the opening lines.
J'adore ces lignes d'ouverture du roman qui sont issues d'un poème qui s'appelle American Wedding, un mariage américain. On a la figure de ce jeune marié qui va embrasser la mariée, il y a de la joie absolument partout, le bonheur est partagé, et on a cette figure du père qui est en train de penser « quelqu'un devrait peut-être les prévenir ». C'est quelque chose, tout le monde partage un optimisme aveuglé, il y a de la joie partout, on célèbre cette union, c'est la fête, mais les choses au bout d'un moment vont commencer à devenir réelles, et je pense pas que ce soit une pensée pessimiste, je pense simplement que c'est une pensée réaliste à propos du mariage, parce que le mariage, tout comme la vie, il y a une ligne un petit peu plus loin dans ce poème qui dit « It's a job you mostly don't know how to do », c'est le titre américain du roman, et c'est vraiment un métier dont on ne sait que très peu de choses et on ne sait même pas si on va être capable de l'accomplir. Et pour moi, c'est pas forcément une pensée pessimiste, c'est une pensée simplement réaliste et aussi pleine d'espoir, parce que les choses vont se présenter et on va les vivre l'une après l'autre et on va s'en sortir, et au bout d'un moment ça va bien se passer.
Merci Pete Fromm, merci pour ce livre vraiment que je conseille à nos auditeurs, La vie en chantier aux éditions Gallmeister. Un grand merci aussi à Thibaut Gendreau qui a été notre interprète parfait. Merci à Christophe Aubry qui s'occupe de la technique. En tout cas, alors je rappelle à nos auditeurs donc La vie en chantier de Pete Fromm chez Gallmeister. Merci, au revoir.
Merci beaucoup.